Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, en fait, on va faire un podcast un petit peu bilan, bonne année, avec quelques bonnes pratiques que j'ai retenues, des choses au contraire qu'il faut que j'arrête. Et j'espère que ça va vous inspirer et que ça va vous donner aussi des petites idées pour vous. Alors déjà, je vais commencer par un petit hack, entre guillemets, un truc vraiment très simple que j'ai fait cette année. D'habitude, je pense que vous êtes comme moi, le jour du premier de l'an, lors de la soirée, vous êtes chez des amis, vous faites un peu votre soirée, et voilà, vous commencez à recevoir des SMS, et puis vous faites un copier-coller d'un message, et tac, vous le balancez à tous vos contacts, allez, bonne année, bonne santé, et puis les autres vous renvoient un petit message comme ça derrière, merci, blablabla. Moi en fait c'est ce que j'avais l'habitude de faire, puis cette année en fait j'ai un peu changé les choses. J'ai certes envoyé un ou deux messages par SMS le soir même aux personnes qui me l'ont envoyé, et au lieu de passer mon heure, puisque je passais une bonne heure à envoyer des SMS, et c'est vrai qu'on me le disait souvent de temps en temps, mais Fred allez viens faire la fête avec nous, je disais non attends, j'envoie un message à tous mes contacts. Et ben en fait cette année je voulais faire deux choses. En fait il y a une chose que j'ai pas faite et je pense que j'ai bien fait de ne pas le faire. C'est qu'en fait, je voulais envoyer un message vocal à l'ensemble de mes contacts avec une solution que je connais. Hein. Il y en a plusieurs que j'ai déjà montré sur conseilmarketing.com. Un message vocal, c'est tout simplement vous enregistrer un message type. Par exemple, bonne année, bonne santé, je te souhaite mes meilleurs vœux. Allez, à bientôt, rendez-vous pour l'année prochaine. Et donc, en fait, qui est déposé de manière automatique comme si le message était passé directement sur le répondeur, ce qui est le cas. Et c'est vrai que je ne l'ai pas fait. Parce qu'en fait, j'ai pas vraiment eu le temps, parce que je faisais le premier dedans chez moi, et ça a été une très bonne chose. Alors pourquoi ça a été une très bonne chose? Parce qu'en fait, le lendemain, j'ai pris en fait un peu de temps l'après-midi, une fois que j'ai rangé tout le truc du premier dedans qui était chez moi, et je me suis mis comme ça dans le canapé, puis j'ai commencé à envoyer des messages vocaux à l'ensemble des personnes que je connaissais au lieu d'envoyer un SMS. Donc vous voyez la petite fonction, hein, sur la plupart des smartphones modernes, vous avez cette fonction-là, vous allez dans la fonction SMS et puis vous avez un petit bouton qui vous permet en fait d'enregistrer comme sur WhatsApp et compagnie. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ça. Et j'ai commencé à envoyer un message. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est quand en fait vous envoyez ce genre de message-là, vous personnalisez votre message. Vous dites, bonjour Fanny, je suis vraiment content de t'aider ce petit message. Je te souhaite une bonne et excellente année à toi. J'espère que ça va bien dans ta nouvelle maison, blablabla. Et en fait, le fait de contextualiser ça, et bien sûr ça montre que tu t'intéresses à la personne, mais la deuxième chose, c'est qu'en fait, au bout d'un ou deux messages, je ne suis plus resté dans le simple message bonne année, j'espère que ça va bien sur toi, mais je suis allé dans le positif en disant vraiment ce que je pensais des gens. Je disais, tiens, voilà, Lingen, un blogueur que je connais bien, je dis, Lingen, je suis vraiment fier de ce que tu as fait parce que en un an et demi, tu as vraiment fait un chemin que tu n'avais pas fait en 3 ans, c'est top, etc., etc. Et faire se passer ce moment-là, donc à parler aux gens par message interposé, de manière positive, m'a même fait du bien à moi. M'a même fait du bien à moi, et c'est ça qui est important. Ça a fait du bien aux personnes qui l'ont reçu. Ils m'ont dit, ouais, c'est super sympa, parce que je le pensais, hein. C'est super sympa, c'est super gentil. Et en même temps, en fait, moi aussi, ça m'a reboosté, ça m'a remotivé. Donc voilà, donc ça, c'est le petit hack de la nouvelle année. Je vous incite à le faire si vous ne l'avez pas encore fait. On est le 9 janvier, là, aujourd'hui. Vous pouvez encore envoyer vos vœux comme ça par SMS à une dizaine de personnes, une centaine de personnes. Moi, je l'ai fait à. Je pense à pas loin de 100 personnes, c'est pour ça que ça dure un peu longtemps, à 30 secondes, une minute le message. Alors, petit bémol, hein, tout le monde ne peut pas lire les messages a priori, mais la plupart des gens qui l'ont eu ont vraiment beaucoup apprécié, et ça fait un effet vraiment très très positif, voilà, pour moi et pour eux. Donc le petit hack, hein, je vous invite à le faire, passez un petit peu de temps, envoyez un petit message vocal à vos contacts. Alors autrement, ce que j'ai retenu un petit peu de cette année, des choses que je vais mettre en place, c'est quelque chose en fait que j'ai commencé à mettre en place à cette fin d'année. C'est Mickaël Monjour d'ailleurs qui m'en a parlé. C'est le One Metric That Matter. C'est l'OMTM comme on dit, ou North Star Metric, North Star comme l'étoile du Nord. En fait, c'est essayer d'avoir uniquement un seul indicateur à suivre et à faire de celui-ci le plus important. En fait, c'est un problème que j'ai eu cette année, puisqu'en fait, j'avais fixé comme objectif de faire du chiffre d'affaires, en même temps, je surveillais mes vues, d'essayer d'avoir 10 000 visiteurs par jour. J'essayais en fait aussi de me dire, tiens, il faut que j'arrive à avoir au moins 100 leads par jour, et je voulais faire un minimum de chiffre d'affaires par mois. Et en fait, en travaillant là-dessus, je me suis rendu compte que tout n'était pas optimal. Parce que si je voulais faire du trafic, il fallait que je fasse du volume et que j'écrive des articles et que je fasse des liens et que je fasse des guest postings et tout ça. Et pourtant, si je faisais ça, bah, je ne développais pas mon chiffre d'affaires. Je développais pas mon chiffre d'affaires. Par contre, si je me focusais pendant un mois ou deux, je me suis amusé à focuser sur le chiffre d'affaires, tout de suite, bam, mon chiffre d'affaires augmentait. Et par contre, le trafic, moi, je l'ai mis un peu de côté, mais c'était pas grave parce que je faisais plus de chiffre d'affaires et de marge. Donc en fait, je me suis rendu compte que finalement, à surveiller trois indicateurs, eh ben, c'était pas la bonne chose. Il vaut mieux en fait que je travaille sur un seul indicateur qui est le plus important et qui va driver mes actions plutôt que d'essayer de courir après trois choses. Donc c'est ce fameux One Metric Vote Matter, j'utilise pas mal de startups. Donc se définir un seul indicateur et le surveiller comme le lait sur le feu. Voilà. Donc je vous invite vraiment à le faire. Moi c'est ce que j'ai commencé en ce début d'année. Maintenant je suis plus à regarder tous les jours, tiens, combien j'ai fait de trafic en visiteurs par jour, combien j'ai généré de prospects, est-ce que c'est bien, mais plutôt de me dire, ok Fred, est-ce que tu as atteint le chiffre d'affaires? Qu'est-ce que tu dois faire pour atteindre ce niveau de chiffre d'affaires? Et vraiment, ça a changé un petit peu ma manière de produire du contenu, de créer, etc., etc. Voilà. Autre chose, donc, bah, ce fameux allié humain et automatisation pour une meilleure efficacité, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec ce message de bienvenue, enfin message de bienvenue, ce message de bonne année. Et j'ai fait également la même chose avec le message de bienvenue. Au début, si vous êtes en contact avec moi sur LinkedIn, bah, j'ai envoyé un message il y a quelques années, il y a un an et demi, j'ai envoyé un message non personnalisé, c'était bonjour, je suis passionné par l'expérience client, je me permets de vous inviter. Ensuite, je suis passé à un message bonjour, je suis passionné par les bonjour. Le prénom, hein. Bonjour Marcel, je suis passionné par l'expérience client, blablabla. Ensuite, je suis passé à un message, le prénom et une photo, une image en fait que j'ai ajoutée en pièce jointe parce que très peu de personnes le font plutôt, et ça a donné des résultats assez sympas parce que c'était, je mettais en avant une BD que j'avais mis et mettre une image, tout le monde ne le fait pas et ça permet de sortir du lot. Et après, là, je suis arrivé à mettre le nom de la société. Donc maintenant, j'ai hey, bonjour Marcel, comment ça se passe chez Bidule Truc Chouette? Est-ce que vous avez tel projet, blabla? Et ensuite, là, maintenant, stade ultime, j'essaye maintenant de m'intéresser aux personnes. C'est-à-dire que je vais leur faire un petit message, genre bonjour Marcel, comment ça se passe chez machin truc. Je lui mets la petite photo et je dis tiens, est-ce que vous savez qu'on a un de vos clients ou un de vos concurrents qui utilise nos produits? On a fait ça, ça et ça pour eux. Voilà. Et donc, en fait, je suis passé vraiment de ce mode industriel, un mode plus semi-automatisé. Alors bien sûr, le premier message que j'envoie sur LinkedIn est toujours un message, comment dire, générique, hein, parce que j'ai du mal à un peu le personnaliser à part le prénom. Mais parce que sur LinkedIn, c'est un problème de temps de place, c'est un problème aussi de pouvoir mettre des URL, blablabla. Mais en tout cas, je suis passé sur du semi-automatisé et vraiment le résultat est bien meilleur. Et je vous invite à le faire également si vous êtes en prospection, en particulier en cold calling. Voilà. L'autre point également, et ça vraiment je me suis attaché à le faire et je le fais depuis un certain temps, c'est essayer de produire et pas de consommer. En fait, j'ai un de mes clients, ben Stéphane, tu te reconnaîtras si tu écoutes le podcast, je lui ai mis le défi de dire pendant 2 semaines, Stéphane, s'il te plaît, arrête de liker mes posts, arrête de liker des articles, arrête en fait de lire des e-books, arrête de faire tout ça. Produit du contenu, produit des produits, enfin créer des produits qui vont te générer du business. En fait, il y a beaucoup de gens comme ça qui restent dans le je m'informe, je passe du temps à lire des newsletters, etc., etc. Alors qu'ils doivent passer plus de temps à produire du contenu. Je vous l'ai déjà dit plein de fois, moi en fait, ben, j'ai plus la télé depuis peut-être 10 ans à la maison, je la regarde un peu sur la tablette, un petit peu quand il y a ma femme ou quand je vais chez mes parents. Mais je vais vous dire que le journal télé, je ne l'ai pas vu depuis des semaines et des semaines. Je suis un peu l'actualité avec Twitter quand il y a un hashtag en tendance. Je me dis tiens, il y a quelqu'un qui est mort ou il y a un truc. Et c'est comme ça que je m'informe très rapidement ou à la pause café avec mes collègues. Et en fait, ça, finalement, bah, ça me fait gagner énormément de temps par rapport à la moyenne des gens qui regardent tous les soirs le journal télé ou qui lisent en plus le matin 20 minutes ou métro dans le train, etc., etc. Voilà. Donc, ou qui consomment des réseaux sociaux à longueur de scrolling, puisque j'ai déjà dit plein de fois. Consulter les médias sociaux, faire du like, ça sert pas à grand chose. C'est pas ça qui va vous apporter des clients. Voilà. Donc vraiment essayer de produire et pas de consommer. Autrement également, ce que je fais déjà depuis un petit moment et qui marche très bien, c'est travailler en sprint trimestriel. Cette année, par exemple, j'ai eu un focus sur une application mobile qu'on a développée. J'ai mis 3 mois pour dire, ok, je vais booster ce business-là et ça va être un stop ou encore. Donc c'était on va dire, de septembre à décembre. J'ai vraiment mis 3 mois avec un focus, des actions, des relances, bla 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 bla. Ensuite, j'ai repassé 3 mois à faire un focus sur les chatbots. J'ai passé 3 mois à faire un focus sur les callbots. Là maintenant, je passe 3 mois sur tout ce qui est optimisation du CRM, optimisation des process de vente et tout ça. Et le fait de pouvoir travailler comme ça en trimestre est vraiment intéressant parce que ça permet d'aller au fond des choses. Voilà. Et bien entendu, en complément de ça, vous utilisez le tunnel AAR, hein, je vous ai déjà parlé de ça, en gros hacking, pour essayer d'optimiser ce qui va pas en fait. Voilà. Et bien entendu, le dernier point, c'est commencer par le plus pénible dans sa journée. Le problème, c'est qu'en fait, souvent, on se dit, putain, j'ai fait ma journée, j'ai fait plein de trucs, mais j'ai pas fait ce que je voulais avancer. Et ça, c'est souvent parce qu'on commence pas par le plus pénible et on essaye de faire le truc le plus simple, lire sa newsletter ou des choses comme ça, choses qui sont vraiment pas totalement inutiles, mais pas très utiles. Voilà. J'ai également aussi travaillé sur ma capacité à dire non. Et je vous invite en fait à faire ça et à réfléchir un petit peu, mais est-ce que ça vaut le coup? Par exemple, il y a plusieurs clients qui me disaient, non mais PayPal, moi je refuse d'ouvrir un compte PayPal pour acheter tes produits, moi j'utilise que de la carte de crédit. Je dis, ok, tant pis pour toi. Même ça m'est arrivé un gars qui voulait acheter un produit à 7 euros, je dis, attends, je te le donne. J'ai pas envie de faire l'effort de rouvrir un compte Stripe parce qu'il fallait que je mette en place du HTTPS sur des pages de paiement et tout ça, et ça me faisait vraiment pas plaisir pour dire quelque chose de poli. Et donc je lui ai dit, mais non, mais je préfère te le donner parce que j'ai pas envie de passer mon temps à faire ça. Pareil, il y a une personne qui m'a très gentiment m'a dit, tiens Fred, est-ce que ça te dirait de venir présenter ton livre de gros hacking? On sera une trentaine de personnes et tout ça, ça te fera de la publicité tout ça. Je dis, ok, mais c'est quand et c'est à quel endroit? Et la personne me dit, c'est à 18h30 et c'est à Boulogne-Billancourt. Attendez, je travaille à Levallois pour être à Boulogne-Billancourt, il me faudrait quasiment 1 heure et demie pour y aller. Et je dis non, mais stop, non, désolé, je peux pas y aller. Et la personne n'a pas compris pourquoi j'y allais pas, parce qu'il y avait 30 personnes, parce que c'était vraiment intéressant que je fasse un focus. Je lui dis non, demande à mon co-auteur, si tu veux, il pourra peut-être venir, ou je connais un très bon gros hacker qui pourra intervenir à ta place, mais là, désolé, je peux pas faire 1 heure et demie aller, 1 heure et demie retour, et flinguer la moitié de ma journée. Et surtout quand c'était prévenu quasiment à la dernière minute, quoi, c'était une semaine avant. En avant ou 15 jours en avance, moi je suis désolé, j'ai déjà un planning de prévu, j'avais des rendez-vous, des choses comme ça, quoi. Voilà, donc apprendre à dire non, et là de plus en plus en fait, je l'ai fait sur mon blog, hein, parce qu'au début j'avais beaucoup de sollicitations, et c'est vrai que j'aime bien rendre service à des amis, et je m'étais rendu compte qu'une partie du blog était en train de dériver sur des thématiques qui n'avaient rien à voir, qui étaient en dehors de mon focus, qui est le marketing B2B, et donc tout simplement, j'ai appris maintenant à dire non, ils ont non, désolé, c'est pas dans ma stratégie, j'ai bien travaillé ma ligne éditoriale en plus, donc j'ai bien réfléchi là-dessus et ça m'a beaucoup servi. Donc je vous invite vraiment à faire ça, apprendre à dire non. Et ça, c'est vraiment pas un problème. C'est comme en fait, il y a pas très longtemps, j'ai vu un email d'Antoine BM, Antoine Blanchet-Maison, qui a une très bonne newsletter d'ailleurs, et qui indiquait faut pas culpabiliser de ne pas répondre à ses emails. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui me faisait vraiment du mal il y a 3 à 4 ans. En fait, je recevais beaucoup de sollicitations par email, beaucoup de gens qui me disaient, tiens, est-ce que tu peux m'aider pour ceci, pour cela? Et c'est vrai que je me sentais, entre guillemets, obligé de répondre à ces sollicitations. Et après, bien sûr, je suis passé avec mon assistante Sabrina qui a pris un petit peu de ces questions type, et j'en avais encore un peu. Puis des fois, allez, je me sens obligé de répondre parce que c'est ma mission, je suis blogueur, machin, etc., etc. Les gens me font confiance, et je me suis dit, mais non, mais Fred, quand il y a des sujets qui sont vraiment trop hors sujet ou qui sont vraiment pas du tout de ta compétence, ne va pas réinventer la roue pour les autres. C'est à eux aussi un peu de faire l'effort. Souvent comme ça, j'ai des questions sur le B2C, des questions sur des thématiques qui sont un petit peu en dehors de moi, de ce que je fais, et je dis, mais non, désolé, c'est pas ma compétence. Et là, tac, ça m'a vraiment aussi soulagé pas mal de choses. Donc apprenez aussi, vous, à dire non, que ce soit une proposition pour faire une soirée, pour faire ceci, faire cela, et entraînez-vous. En fait, c'est ça qui est le plus intéressant, c'est que dire non, en fait, c'est quelque chose qu'on vous a pas inculqué à l'école. Souvent, en fait, au contraire, on dit il faut dire oui, sois poli, machin, etc. Et il faut vraiment désapprendre à dire oui et réapprendre à dire non. Et une bonne technique, c'est le faire au quotidien. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez, je sais pas, au McDo, malheureusement, tout se commande quasiment avec des écrans. Mais apprenez à dire non, par exemple, quand vous êtes au restaurant. Au McDo, au lieu d'aller à la borne, allez tout simplement devant les caissiers. Et quand ils vous demandent est-ce que vous voulez un dessert, est-ce que vous voulez un menu, est-ce que vous voulez un truc, blablabla, dites non. Ou je sais pas, si vous allez sur un marché, est-ce que vous voulez aussi ça? Non. Voilà, donc en fait, apprenez comme ça à dire non au quotidien, et ça vous entraînera, ça vous renforcera, et vous verrez, vous aurez une capacité à dire non qui sera bien plus importante. Voilà. Un autre truc qui m'a vraiment servi cette année, et je vous invite vraiment à le faire, c'est lire des livres audio. Vous voyez, vous regardez cette vidéo, vous écoutez ce podcast. Et ben en fait, moi, lire à peu près 5-6 bouquins, parce qu'en fait, le problème des livres audio, c'est qu'en fait, sur l'instant, on les écoute, etc., mais ça rentre pas une oreille, ça part de l'autre. En fait, il faut l'écouter au moins 3-4 fois, et moi, j'essaye de prendre des notes avec les idées importantes, parce qu'autrement, en fait, on les oublie, c'est beaucoup moins fort qu'une lecture papier, avec ce qu'on peut éventuellement signer, noter, etc., enfin, signer, surligner plutôt. Donc, c'est moins fort, mais quelque part, vous allez vraiment vous imprégné de pas mal d'idées, et vous allez au moins prendre une petite partie de ce qui est dit. Donc vraiment, les livres audio, que ce soit Audible, que ce soit Cooper, utilisez-les, ça vous permettra de progresser, parce qu'autrement, moi, j'avais plus le temps de lire des bouquins, et même j'écoute pas mal de podcasts aussi, c'est assez intéressant. Par exemple, il y a un très bon podcast dans le domaine de la vente qui s'appelle Dans l'arène, où il y a vraiment des très bonnes idées, très opérationnelles. Voilà. Autrement aussi, quelque chose qui m'a vraiment très 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 servi cette année, c'est le coaching mutuel, hein, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Tous les mois en fait, avec un autre entrepreneur qui est dans le domaine de la vente du commerce, et qui est non concurrent de moi, qui a une autre problématique, et bien en fait on se coach mutuellement, on se fait un déj virtuel, et donc en fait pendant une heure et demie, tous les mois en fait on échange sur nos problèmes, on passe une demi-heure sur une personne et une demi-heure sur l'autre avec questions-réponses, etc. Et sincèrement, ça permet donc bien sûr de s'ouvrir, ça permet d'échanger, ça permet d'avoir un point de vue externe, ça permet de se challenger, ça permet de se remettre en question, et c'est vraiment très 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 puissant. Donc je vous invite comme ça, si vous avez quelqu'un avec qui vous entendez bien, avec qui vous avez confiance, qui est non concurrent, proposez-lui comme ça de se faire un déj une fois par mois, et vous prenez un peu de temps pour discuter, et vous dites tiens voilà, 2-3 jours en avance, je t'enverrai quelques questions qui me préoccupent actuellement, et on essaiera d'échanger là-dessus. En complément de ça, j'ai également fait beaucoup cette année le déj virtuel. Alors le déj virtuel, c'est très simple. Au lieu de faire un déjeuner en face à face, parce que bon moi, vous savez, j'habite à Paris, et des fois quand on se fait un déj, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller à une demi-heure de là, ensuite on fait le déj, on attend pour bouffer, et ensuite qu'est-ce qui se passe? En fait on attend le dessert, on attend le machin, et puis il faut revenir. Finalement, vous avez flingué 2 heures. Et vous avez à peine eu le temps de discuter parce qu'en plus le truc était en plein brouhaha. En plus, la serveuse est venue vous interrompre 3 fois. En plus, il y a du monde aux alentours et vous êtes un peu distrait. Donc en fait, le déj virtuel, mes collègues se moquent un petit peu de moi. Ils me disent, hey, tiens, Fred, tu fais encore un déj virtuel ce midi? Avec un petit sourire. Et je leur dis, mais attendez, c'est quelque chose qui est super sympa. En fait, je l'ai fait avec plusieurs personnes, et ces personnes-là m'ont dit ah ouais, c'est vrai que c'est un format qui est original. Le principe, c'est très simple. Vous allez faire comme vous faites une réunion à distance, donc vous utilisez Zoom, vous utilisez JoinMe, vous utilisez Teams, vous utilisez Skype, enfin, bref, vous utilisez n'importe quel outil que vous voulez. Et en fait, vous donnez rendez-vous à quelqu'un, et là vous avez votre petite salade, vous avez votre sandwich, vous avez votre thé. Moi, je prends du thé le midi. Et tac, en fait, vous êtes en train tout simplement de discuter, d'échanger. Alors, ça n'a pas la convivialité d'un repas, parce qu'en fait, lorsqu'on fait un repas physique, il y a quelque chose qui se passe, hein. C'est pas juste comme faire une réunion virtuelle. Il y a vraiment beaucoup de choses, il y a plus de liens, il y a plus de choses qui se passent. Mais c'est quand même entre la réunion, le déjeuner physique, c'est vraiment entre les deux, et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Et je trouve ça vraiment très bien, et ça permet vraiment d'aller à l'essentiel et pourtant de partager un moment de convivialité. Donc, le déj virtuel, je vous invite vraiment à le faire. Autrement, bon, j'ai travaillé sur le temps et c'est vrai que je l'ai déjà dit plusieurs fois. Là, je vais écrire un bouquin sur les chatbots qui va sortir au mois de mars. Et donc, en fait, ce bouquin-là, j'ai réussi à l'écrire grâce aux routines. Je me mettais en fait une demi-heure d'écriture tous les midis quasiment ou un midi sur deux. Et là, forcément, j'ai vraiment, vraiment pu avancer alors que des fois, je passais des après-midi et j'avançais quasiment pas parce que bah, j'étais pas concentré, parce que ceci, parce que cela. Donc, vraiment quelque chose qui est vraiment bien et travailler donc sur la durée, l'effet cumulé, c'est quelque chose qui est très 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 fort. Voilà. Autre point également, c'est positiver. Moi, je vois pas mal de gens en fait qui sont vraiment dans un aspect négatif, qui voient que le côté voilà, ça va pas, machin, etc. Il faut positiver. Par exemple, là, tu vois, avec les grèves, eh ben, heureusement, moi, j'habite à peu près à 45 minutes de mon bureau et 45 minutes à pied. Je précise. Et donc là, bah, avec les grèves, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, ça m'a donné l'occasion de faire un peu de marche à pied. Des fois, je le faisais, mais vraiment de manière exceptionnelle. Et c'est vrai que ça m'a fait plaisir un petit peu, des fois le matin, de me dire, bon, allez, oh, le bus, attends, il va mettre 5 minutes de moins parce que il y a un bus tous les demi-heures. Allez, hop, je vais tout simplement le faire à pied. Et c'est vrai que ça fait du bien, ça permet un petit peu aussi de faire une bonne fatigue physique, ça permet de réfléchir un petit peu, de s'aérer la tête. Parfois aussi, on peut utiliser un petit podcast pendant ce temps-là. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir ce petit moment de dépense physique et ce moment en fait où on est un peu en déconnexion. Voilà. Où ça permet aussi, moi, ce que je faisais pendant en fait la période des fêtes, j'envoyais un message, enfin j'appelais en fait quelques-unes de mes connaissances que j'avais pas eu au téléphone depuis un petit moment, puis on discutait, on échangeait, c'était vraiment assez agréable comme ça, donc j'avais une demi-heure, 45 minutes de marche à pied. Voilà. Alors le dernier point, c'est if then then that, c'est se reprogrammer. En fait, c'est j'ai lu ça justement dans un bouquin que j'écoutais en audio et je l'ai mis en application parce que je trouvais ça assez intéressant. C'est tout simplement de se dire, bah voilà, si jamais il vous arrive telle situation, alors vous faites ceci, cela, comme dans un programme. If ceci arrive, then tu fais ça et ensuite tu fais ça. Et je l'ai appliqué assez souvent. Par exemple, en fait, ben, le soir, souvent là, quand je vous parle, ben, j'ai une petite envie de chocolat. Elle me dit, tiens, ben, allez hop, je vais me prendre un petit coup de boost de chocolat, ou je vais prendre, je sais pas, un fruit ou n'importe quoi. Et bien entendu, ben, comme j'essaye en fait de réduire le sucre, là en fait, ben voilà, je craquais. Et en fait, je me suis conditionné moi-même. Et maintenant, en fait, à chaque fois que j'ai envie de prendre un bout de chocolat, et ben, je dis, ben, tiens, Fred, tu vas te faire un petit thé. Et là, en fait, vous voyez. Vous l'entendez peut-être pas, mais là j'ai ma petite tasse à côté de moi. Et donc j'ai réussi à me reprogrammer tout à l'heure et je me reprogramme comme ça quasiment tous les soirs pour éviter de prendre du chocolat. Pareil en fait quand je vais au restaurant, lorsque le serveur me dit est-ce que vous prendrez un dessert? Et là à ce moment-là, bah, j'ai comme réflexe de dire si le serveur me demande est-ce que vous voulez un dessert, je dis non, je préférerais un thé. Voilà. Alors qu'avant j'aurais pris un café gourmand ou est-ce que j'aurais pris un vrai dessert. Voilà. Bon, autrement dans le négatif de l'année, je vais pas non plus passer des heures là-dessus, mais en fait j'ai perdu un petit peu la foi dans l'inbound marketing pur, puisqu'en fait pendant longtemps, surtout avec l'expérience de mon blog, hein, Conseil Marketing, bah, j'étais vraiment un gros fan de l'inbound marketing à 100%, puisqu'en fait bah, avec mon blog Conseil Marketing j'arrivais à le faire, avec le travail sur le networking j'arrivais à le faire. Il me disait voilà, le création de contenu, c'est comme ça que ça marche, etc. etc. Et en fait, bah, j'en suis un petit peu revenu cette année, puisque je me rends compte que ce que je voyais déjà, hein, la qualité des leads est moins importante, etc. etc. Et je pense de plus en plus à vraiment à la complémentarité, je dirais pas à 50-50, mais presque entre l'outbound, c'est-à-dire la prospection dans le dur, qui peut être fait sur LinkedIn, qui peut être fait sur Facebook, sur Twitter, n'importe quoi, mais en tout cas sur la nécessité d'aller chercher les prospects plutôt que de les attendre et les faire venir avec en particulier du contenu. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai vu à titre personnel dans le B2B et ça marche de plus en plus. Voilà. Autrement, travailler plus sur la délégation. Je vous parlais tout à l'heure que j'avais tout simplement fait le premier de l'an chez moi avec ma femme et quelques amis, donc on était une vingtaine à la maison. Et c'est vrai que je me suis rendu compte pendant j'ai passé la plupart du temps de la soirée à faire la cuisine, à bricoler, à faire de la vaisselle et tout le bordel, au lieu en fait de passer du temps et du bon temps avec mes amis. Et c'est vrai que c'est à la fin de la soirée, je me suis dit, merde, et Fred. T'as fait que passer ton temps derrière les fourneaux, pas forcément à cuisiner, hein, je vous rassure, mais à faire de la logistique, alors que tu aurais pu très bien déléguer à tes amis, tu aurais pu leur dire, tiens, est-ce que tu peux me faire ci, est-ce que tu peux me faire ça? Si j'ai réussi à le faire partiellement avec Sabrina, ben, j'aurais pu le faire également là, voilà. comme pour le bricolage, comme là j'ai déménagé, j'ai fait pas mal de bricolage par moi-même, alors qu'avec le recul, je me dis merde, j'aurais dû faire appel à quelqu'un pour le faire. Voilà. Mais quelque part, c'était aussi intéressant de monter en compétence là-dessus et faire quelque chose de physique. Sincèrement, je trouve que ça permet de se déstresser, ça permet de penser à autre chose et de trouver des autres idées. Voilà. Autrement également, ça c'est donc en travaillant avec mon coach, hein, c'est essayer de moins travailler sur la variable sommeil. Puisqu'en fait, je connais pas mal de gens, dont moi, qui travaillent beaucoup sur, qui ajustent en fait leur capacité de travail en rognant, en réduisant le temps de sommeil. Or, en fait, je me suis rendu compte que, à un moment donné, j'avais vraiment besoin de beaucoup de temps. J'avais réduit énormément mon temps de sommeil, en plus avec mes deux filles qui dormaient pas très bien. Et ça a joué beaucoup sur ma productivité, ma motivation, mon humeur, etc., etc. Et c'est vrai que dès que j'ai commencé à revoir un petit peu cet équilibre-là, par exemple en faisant une petite sieste en rentrant du travail, par exemple en me couchant tôt mais en me levant tôt, etc., etc. Et ben, ou alors en faisant une grosse matinée, en osant, en disant tiens, voilà, non, je me fais une grosse matinée, une grasse matinée tout seul et voilà au lit et je laisse les filles un peu jouer toutes seules, etc., etc. Donc ça en fait ça fait du bien et ça permet véritablement d'être plus efficace, mieux en focus. Donc je vous invite vraiment à réfléchir là-dessus, surtout si vous êtes comme moi, quelqu'un qui aime bien travailler la nuit ou qui aime bien en fait faire des choses le soir. Bon, bien sûr, c'est aussi un des facteurs de la réussite, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est l'effet cumulé, c'est avoir une routine tous les soirs, passer du temps à partir de 21h30, 22h, et ben c'est vrai que c'est bien. Mais en même temps, faites attention à pas non plus aller rogner trop sur votre sommeil. Voilà. Le dernier point, aussi, ça c'est quelque chose que j'ai pas très bien réussi cette année. En fait, je m'étais défini un seuil de chiffre d'affaires à atteindre. Et c'est vrai que sur le papier, je me dis, bah les Fred, bon, vu tout ce que tu as à faire, tu vas te fixer ça en chiffre d'affaires et tu vas l'atteindre. Bon, ok, je l'atteins. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai pas assez détaillé comment le faire. Je me suis dit, bah tiens, je voudrais faire tel chiffre d'affaires. Mais j'ai pas dit, ben tiens, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour l'atteindre? Et ça, en fait, je pense que c'est le plus important. C'est pas ce que vous devez faire, mais c'est comment vous devez le faire et comment vous allez y arriver. Et ça vous permet de vous poser les bonnes questions. On revient encore sur le why, le livre Commencez par le pourquoi, hein, le why de Simon Sinek, qui permet en fait de se dire, mais déjà pourquoi je fais ça et ensuite comment je le fais. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui est beaucoup plus important et qui permet de mieux concentrer ses idées, de trouver des idées alternatives. Et parfois, un exemple très simple, là en fait, cette année, je me disais, merde, comment je vais faire pour atteindre mon chiffre d'affaires parce que j'avais mon bouquin, j'avais mon déménagement, j'avais ceci, cela. Et en fait, mais Fred, réfléchis un peu, le meilleur moyen, et tu dis à tout le monde, de faire plus de chiffre d'affaires, c'est d'augmenter tes prix. Bah ouais, merde. Je dis, pratique what you preach, fais ce que tu préconises, et simplement, j'ai multiplié mes prix par deux, et les ventes ont quasiment pas bougé en volume. Par contre, en chiffre d'affaires, ça a beaucoup augmenté. Et aussi, donc, se dire, bah tiens, au lieu de faire des trucs révolutionnaires, c'est ce que je dis à tout le monde, essaye d'identifier des pépites que tu as dans ton entreprise. Qu'est-ce que c'est une pépite dans l'entreprise? C'est quelque chose que tu peux exploiter, ça peut être un stock de produits, ça peut être un produit star, ça peut être un produit qui vient de sortir, ça peut être, je sais pas, un super consultant, enfin bref, une pépite dans l'entreprise, et essaye de l'exploiter pour faire des chiffres d'affaires. Et c'est ce que j'ai fait en fait en cette fin d'année. En fait, j'ai juste fait une petite promo sur un produit existant, et bim, en fait, cette petite promo qui m'a pris 5 minutes à venir a permis de faire du chiffre d'affaires vraiment par rapport au temps que j'ai passé. J'ai passé quoi? Un quart d'heure à faire une petite promo, un petit email et tac, après ça a généré du chiffre d'affaires tout seul. Donc quelque part en fait, voilà, c'est le comment, c'est comment je vais y arriver plutôt que se dire bah tiens, faut que je fasse tant et puis sans définir comment je vais y arriver. Voilà. Donc parfois les solutions les plus simples sont celles qu'il faut mettre en place. Voilà. Donc c'était ma petite réflexion sur l'année, hein. J'espère que ça vous a plu, que ça va vous aider et vous arriverez également à trouver des petites solutions là-dessus. J'aimerais bien aussi, si vous avez 2 secondes, que vous me fassiez un peu vos commentaires sur quelles sont les petites bonnes résolutions, quelles sont les idées. idées, à la fois de productivité, des astuces business. Qu'est-ce qui vous a permis de faire un petit truc positif? Qu'est-ce qui vous a surpris? Est-ce qu'il y a une astuce, une action marketing? Est-ce qu'il y a une habitude? Est-ce qu'il y a une bonne pratique que vous avez fait cette année qui vous a permis de cartonner? Ça, je suis vraiment curieux parce que moi, je vous ai donné mes petits secrets et j'aimerais savoir déjà, un, si ça vous plaît et s'il y en a certains que vous avez mis en place ou que dans ce que je vous ai dit là, hein, que vous allez mettre en place. Et d'autres choses, est-ce que vous avez des petits secrets à me partager? Je suis vraiment friand. J'adore ces petits secrets là et je suis vraiment preneur de vos idées, suggestions, à la fois idées business, comment vous avez réussi à faire du business, mais également comment vous avez réussi à être plus efficace, plus productif. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne année et puis rendez-vous au prochain podcast. Je vous souhaite une année 2020 à laquelle vous pourrez donner un 20 sur 20. Allez, à bientôt, ciao ciao.